Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es toujours avec nous. Depuis les temps les plus anciens, tu as manifesté ta bonté envers l'humanité. Tu as envoyé tes prophètes et tes apôtres. Tu as envoyé tes témoins pendant tous les temps et tu continues de les envoyer parce que ta volonté, c'est notre salut, notre pardon, notre bonheur. Béni sois-tu, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes tous les jours. Béni sois-tu pour ta parole qui nous affermit, qui nous soutient, qui nous construit. Seigneur, donne-nous d'y être attentifs, de l'écouter, de la garder, de porter des fruits. Fais que cette parole nous transforme de plus en plus à ton image, comme c'est ton désir et comme c'est ta volonté. Seigneur, que ton esprit agisse en nous, qu'il continue de nous guider, de nous garder et de nous accompagner. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons entendre les lectures bibliques qui nous seront faites par Viviane Scott et par Gisèle aussi, ou non? Oh oui, alors Gisèle et Viviane, voilà.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, d'abord les versets 7 à 11. Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il? Quel est le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, « Je suis le Messie, et le temps est arrivé. » Mais ne les suivez pas quand vous entendez parler de guerre et de révolution. Ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas tout de suite la fin du monde. Puis il ajouta, « Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. » Or, au verset 25 à 38. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, mais le soir, il s'en allait passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Amen.
Entendez-vous bien depuis ici ou vous voulez que je monte en haut? Ça va comme ça, Nicole?
Ça va.
D'accord. L'évangile, notre deuxième lecture se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24, les versets 36 à 44. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient leurs fils en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et ils emportèrent tout. Ainsi, en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme? Alors deux hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Deux femmes moudront du grain au moulin. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts. Vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Amen.
Qu'est-ce que la Bible dit de la fin du monde? Dans des textes mystérieux et effrayants comme celui lu tout à l'heure, quelles indications donne-t-elle de ce qui se passera après? Eh bien, je vais vous surprendre, aucune. Aucune, si ce n'est que notre histoire n'est pas soumise à la fatalité et au défaitisme qu'entretiennent les médias. Elle est dans les mains d'un Dieu qui la conduit vers un accomplissement extraordinaire où il sera totalement présent. Les pasteurs parlent peu de ces prophéties parce qu'ils ne veulent pas alarmer leurs paroissiens. En réalité, celles-ci sont bien moins inquiétantes que les nouvelles catastrophiques qu'on entend tous les jours. Si on tient compte de l'avertissement qu'elles nous adressent, elles sont même porteuses d'espoir. La première d'entre elles annonce « Un peuple combattra contre un peuple, il y aura de terribles tremblements de terre, des famines et des épidémies, et aussi des phénomènes inquiétants dans le ciel. » Vous m'objecterez sans doute que cela n'a rien de rassurant. C'est vrai, mais franchement, est-ce que c'est différent de ce qui se passe actuellement? Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est continuellement passé au cours de l'histoire? Notre terre a eu et aura toujours des guerres, des tremblements de terre, des cyclones destructeurs. Les prophéties de Jésus n'annoncent aucun changement à ce sujet. Parce que leur intention n'est pas d'établir un calendrier de la fin du monde, mais de nous exhorter à ne pas chanceler avant qu'elle n'arrive ou avant que notre vie ne se termine. Or, justement, c'est là qu'est la difficulté. On a une maladie qui ne laisse pas de répit, on sait qu'on n'en guérira pas. Vivre jour après jour avec elle est un calvaire. On espérait profiter de notre retraite, mais les soucis de famille s'accumulent. On porte à bout de bras un enfant en train de divorcer. Un autre est au fond du trou parce que sa vie professionnelle a basculé. Puis c'est le tour du conjoint qui nous donne du souci. Lorsqu'un problème se résout rapidement, il n'a aucun impact sur notre vie spirituelle. En revanche, lorsqu'il se prolonge, il la déstabilise. On se décourage. On se dit qu'on n'est pas sur cette terre pour souffrir. Et pourquoi continuer à faire des efforts pour Dieu s'il ne nous aide pas ? Les disciples de Jésus ont connu cette tentation. Les recherches historiques montrent qu'ils s'imaginaient que le règne de Dieu s'établirait rapidement après la résurrection de leur maître. Celle-ci les avait rendus si enthousiastes que la victoire finale leur paraissait à portée de main. Ils avaient pourtant été prévenus que nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais la joie de Pâques était telle qu'ils avaient oublié cet avertissement. Or, 30 ans plus tard, la situation n'avait guère changé. L'occupation romaine était toujours aussi lourde. Plusieurs apôtres et chrétiens étaient morts. Et le royaume de Dieu n'était toujours pas là. L'avertissement de Jésus a alors pris tout son sens. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Depuis longtemps, certaines sectes s'efforcent de deviner, au travers des paroles de Jésus, quand Dieu mettra un terme à l'histoire du monde. C'est une erreur. Ces paroles ne sont pas là pour ça. Leur intention est de nous exhorter à tenir bon et à garder la foi, quoi qu'il arrive. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire curieuse. Il avait été croyant toute sa vie, mais à la suite de problèmes cardiaques, il s'était fait opérer, une opération qui s'était bien déroulée. Or, en sortant de l'hôpital, il avait perdu la foi. Aucun événement n'expliquait ce changement. Tout allait bien, mais bizarrement, il ne croyait plus. J'ai été si intrigué par cette histoire que j'en ai parlé à la mère de mon filleul qui est psychiatre à Stuttgart. Elle n'a pas trouvé d'explication. Il doit sans doute y en avoir une. Peut-être que ce qui se passe au niveau de cet organe si vital que notre cœur est susceptible de modifier notre caractère et notre comportement. Mais en tout état de cause, on n'est jamais soumis à une fatalité. On garde la liberté de dire Je suis bouleversé, je suis ébranlé, je ne sens plus la présence de Dieu en ce moment, mais je ne renonce pas à ce que je crois parce que j'en ai fait le socle de ma vie. De fait, quand on s'accroche dans nos périodes creuses, nos doutes finissent par se dissiper. En revanche, lorsqu'on capitule, on revient rarement en arrière. C'est comme avec certaines plantes qui ont séché. Lorsqu'on les met à la poubelle, elles sont de toute façon perdues. Lorsqu'on essaye de les faire partir, repartir, qu'on les arrose, on arrive souvent à ce qu'elles repartent. Le deuxième message des prophéties sur la fin du monde est de nous rappeler qu'on n'est pas livré à nous-mêmes dans nos combats. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, assure Jésus. Dieu ne nous épargne pas les épreuves, mais il nous donne la force de les affronter. Quand on observe les héros de notre temps, on remarque qu'ils ont souvent été confrontés à de terribles difficultés. Mais ils ont trouvé, on ne sait comment, et eux-mêmes souvent pas non plus, une énergie qui leur a permis de continuer. Si l'Église protestante les canonisait comme le fait l'Église catholique, elle soulignerait d'abord cette force qui leur a permis de surmonter les obstacles et de faire quelque chose de leur vie. À ce propos, il convient de mentionner Nelson Mandela. Je l'admire encore plus en considérant les présidents corrompus qui lui ont succédé et qui ont en partie détruit son œuvre admirable. Après 28 ans en prison, où il a tout perdu, il aurait pu devenir comme eux. Il aurait pu prendre sa revanche. Il aurait pu s'approprier des richesses pour son usage personnel. Or, non seulement il ne l'a pas fait, mais il s'est efforcé de construire un avenir prometteur pour son pays où noir et blanc coexisteraient en harmonie. Oui, je l'admire. Parce que moi, si on m'avait annoncé un tel destin, sans aucune assurance de gagner à la fin, une existence qui ne tiendrait qu'à un fil parce que mon gouvernement chercherait sans cesse le moment propice pour m'éliminer, si à ma libération, on m'avait appris que ma femme m'avait trahi, qu'elle avait assassiné des Blancs, alors que j'avais refusé la violence pour changer la société sud-africaine, je ne sais pas si je l'aurais supporté. Nelson Mandela était vraiment fort. Or, d'après ce qu'il prétend dans son autobiographie, il ne l'était pas tant que ça. Il a souvent eu peur. Il a douté. Il a eu des moments de découragement. Mais Dieu l'a maintenu debout dans l'adversité, confirmant ainsi sa promesse, avec l'épreuve, vous viendra aussi la force de surmonter l'épreuve. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Voilà le sens des prophéties sur la fin du monde, qui ne nous annonce pas un destin apocalyptique, qui ne nous disent même rien de l'avenir, mais qui nous encouragent à tenir bon avec la certitude que Dieu sera toujours à nos côtés. Amen.